Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Naviguer sur Internet, regarder des vidéos, avoir une maison connectée, ne pas éteindre son ordinateur ou sa box sont des pratiques numériques nocives et sous-estimées en termes d'impact environnemental. Alors comment améliorer nos comportements afin de mieux maîtriser notre utilisation du numérique pour lutter contre la crise écologique ? Comment optimiser les recherches web ou le stockage de nos données ? En une heure, 8 à 10 milliards de mails sont échangés, 180 millions de recherches Google sont effectuées, 15 000 km, c'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique comme un mail, un téléchargement ou encore une vidéo, et 67 millions de serveurs Internet dans le monde existent, 1,1 milliard d'équipements également, comme des routeurs, des box ADSL, des chiffres qui révèlent des pratiques quotidiennes qui ont un impact réel sur l'environnement. Thibaut Dugas, invité de l'épisode 9 des Écolonautes, est à nouveau avec nous. Il est membre et fondateur du collectif Translucide, collectif de professionnels, artisans du web, indépendants, aux valeurs écologiques fortes. Il nous aiguille sur les bonnes pratiques à adopter dans notre quotidien en matière de numérique. Les Écolonautes, épisode 10. Bonjour Thibaut Dugas.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a des usages, parce que c'est vraiment les usages qui vont nous intéresser dans cet épisode, plus impactants sur l'environnement que d'autres ?
Alors oui, forcément, il y a des usages plus importants que d'autres, mais comme à chaque fois, ça dépend de chacun d'entre nous comment on utilise le numérique. Est-ce qu'on regarde des vidéos tous les jours et tout le temps ? Est-ce qu'on allume son smartphone tous les jours et tout le temps ? Est-ce qu'on utilise son ordinateur toujours et tout le temps ? Ça dépend vraiment de chacun, en fait.
Est-ce qu'il y a quelques ordres de grandeur à avoir, par exemple, entre le visionnage d'une vidéo, le fait de renvoyer des mails avec des grosses pièces jointes ?
Alors oui, il y a des ordres de grandeur qu'on peut avoir entre une heure de vidéo Netflix et puis un mail qui a beaucoup moins d'impact. Après, c'est toujours la même chose. Si la vidéo, on la regarde tout seul chez soi sur son smartphone en 4G, ou alors, et si on envoie le mail qu'à une personne sans pièce jointe, et à l'inverse, si on regarde un Netflix par fibre sur son écran avec 10 personnes, et à contrario qu'on envoie un mail à 3000 personnes avec une grosse pièce jointe, les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, ça dépend vraiment du contexte et de la personne.
Est-ce qu'on ne doit pas craindre, dans les années à venir, un accroissement des usages et donc de leurs impacts ? Et derrière cette question, en fait, il y a une interrogation sur les conséquences de l'arrivée de la 5G. Quel regard vous portez-vous sur cette période ?
Alors oui, on voit que les usages sont de plus en plus numériques. Et sont de plus en plus intenses. On se dirige vers ça, on le voit. Les gaz à effet de serre aujourd'hui du numérique, ça représente à peu près 4% au niveau mondial. Et on estime que d'ici 4 ans, ça va doubler, ce qui est le secteur qui explose tous les compteurs parmi tous les autres secteurs au niveau croissance. Les usages, on a de plus en plus d'usages. Ma vision est qu'on va vers toujours plus d'usages, mais notre terre est limitée. Et pour avoir ces usages, il nous faut des matériaux pour tous les objets, pour les smartphones, pour les ordinateurs, etc. etc. Et qu'il y a un moment où on va être limité en termes d'objets, et du coup en termes de puissance aussi, on va être limité au bout d'un moment. Donc forcément, il faut choisir dès maintenant quelles sont nos priorités, ou alors ça va être subi.
Est-ce que dans la question du choix des priorités, il faudra arbitrer à un moment donné entre des usages liés à la sphère professionnelle et aux usages liés à la sphère personnelle ?
Alors oui, forcément, il va y avoir ce chemin-là à choisir, en tout cas entre ces deux chemins-là. Et pour aller encore plus loin, si on tire le raisonnement plus loin, il va falloir choisir entre une éolienne ou un panneau photovoltaïque et puis un data center ou un smartphone.
Du point de vue des ressources naturelles extraites pour pouvoir les fabriquer ?
Effectivement, d'un point de vue des ressources et d'un point de vue aussi de l'énergie disponible pour faire fonctionner ces matériaux, ces usages.
Donc aujourd'hui, on a une bonne vision, selon vous, des différents gisements de ressources naturelles qui rentrent pour la construction de tous ces biens ?
Une bonne vision, je ne dirais pas qu'on a une bonne vision. La vision s'affine au fur et à mesure des années et évolue au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, on a une vision qui est meilleure que celle de l'année dernière. Et on commence à voir le bout, les limites de toutes les ressources qui sont disponibles.
Alors je reviens à la 5G. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une estimation ou des premiers calculs qui permettent de dire ça va considérablement accroître les connexions Internet, l'usage d'Internet ou autre ?
Alors je ne crois pas. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de rapport qui fait véritablement, qui met en avant ça. Par contre, il n'y a pas besoin d'un rapport pour comprendre que quand est arrivée la fibre, depuis qu'est arrivée la fibre, on consomme plus d'Internet. Donc on peut bien imaginer facilement que lorsque la 5G sera là, on va consommer plus de numérique et forcément ça a plus d'impact.
La 5G, pour l'instant, on en parle sur la question de l'usage des ressources naturelles, de la consommation d'énergie. Est-ce que vous avez regardé aussi tout ce qui est autour des conséquences sur la santé humaine, la question des ondes et autres? Quel est votre regard sur ce point?
C'est la même chose. Il y a un rapport sanitaire sur la 5G, mais qui se limite, en tout cas, qui regarde s'il y a destruction je crois que c'est des tissus face aux ondes des 5G, ce qui n'est pas le cas.
Les tissus cellulaires dans le cerveau?
Oui,
D'accord.
des tissus, et du coup, c'est une destruction physique. D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas expert là-dessus, ce n'est pas le cas. C'est le feu vert de ce côté-là. Par contre, il y a plein d'autres effets qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas regardés.
Je reviens sur la question des usages potentiellement plus impactants que d'autres en fonction, donc vous l'avez évoqué, du contexte. À contexte égal, une personne qui utilise son ordinateur pour son usage personnel, quel conseil pratique vous lui donneriez pour qu'il diminue son impact quand il utilise Internet ou ses biens numériques de manière générale?
Quand on utilise nos biens numériques, la première question à se poser, c'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de savoir la définition d'un mot là, maintenant, tout de suite, ou alors je peux attendre de me connecter en Wi-Fi? Est-ce que je suis obligé de regarder une vidéo là, tout de suite, pour passer 30 secondes dans le train ou 30 secondes chez moi, plutôt que écrire quelque chose, écrire un texto même, peut-être, plutôt que regarder une vidéo? Donc il y a des proportions quand même à avoir en tête. La vidéo est consommatrice. Il y a notamment un rapport du Chief Project qui le montre, mais c'est pas la seule chose qui est consommatrice. Par exemple, alors la donnée date un peu, elle date de 2013, mais un mail stocké consomme 2 fois plus d'énergie qu'un mail envoyé. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux ne pas supprimer ces mails qu'on a depuis 30 ans, mais éviter d'envoyer un mail à 30 personnes alors qu'il sert à rien. Après, le meilleur des cas étant de supprimer ses mails et ne pas envoyer le mail, bien sûr.
Concernant la vidéo, une fois qu'on a estimé que le visionnage d'une vidéo correspondait à un besoin à satisfaire, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques aussi à avoir pour le faire en limitant son impact?
Effectivement, il y a plusieurs solutions. Ça peut être, par exemple, à la place de regarder un épisode, chacun dans sa chambre, être plusieurs à regarder le même épisode. Au niveau de la diffusion vidéo, c'est pareil pour, par exemple, ceux qui regardent la télé. C'est plus regarder la télé qui vient de la TNT et non qui vient de la box pour éteindre sa box. Il y a plusieurs petites astuces comme ça. De la même façon, lorsqu'on regarde plusieurs fois un film, c'est mieux de le télécharger plutôt que de regarder en streaming. À l'inverse, si on le regarde qu'une fois, peut-être qu'un streaming, ça peut être mieux et encore, c'est pas encore sûr.
Est-ce que finalement on ne pourrait pas faire les préceptes du zéro déchet, c'est-à-dire les 5 R, refuser, recycler? Je les ai plus en tête
C'est
exactement.
refuser, réduire, réutiliser, recycler et rot pour composter.
Est-ce que c'est plus dur pour le numérique, vous pensez, Thibaut Dugas?
C'est pas plus dur. Il y a d'ailleurs une conférence qui a été réalisée sur le numérique et les 5 R pour les coller justement là-dessus, qui a été fait par Code Lutin, qui est une entreprise nantaise. Les premiers R correspondent assez bien au numérique. Les dernières R sont peut-être. Il y a quelques R qui sont un peu moins faciles, mais on peut toujours coller. Effectivement, c'est une bonne philosophie pour regarder le numérique.
Mais je pense qu'il faut éviter de mettre sa tablette au compostage. Pour le dernier R.
Effectivement.
Oui, je pense que ça marche pas pour faire pousser des carottes.
Non, ça fera pas pousser des tablettes. Quel regard vous portez sur l'écosystème numérique nantais? Est-ce que, d'après vous, il est suffisamment au fait des enjeux? Est-ce que vous êtes les seuls sur ce créneau?
Absolument pas, on n'est pas du tout les seuls. Il y a plusieurs entreprises qui se lancent dedans. Il y a même un collectif qui s'appelle Nantes Numérique Responsable qui commence à s'élever sur Nantes pour justement porter ces valeurs-là. Et on est de plus en plus, et au niveau nantais, je pense qu'on est assez actif sur le sujet, même si on voit qu'au niveau national, ça commence à prendre de l'ampleur. comme tous les sujets, hein, dès que ça prend de l'ampleur, il y a aussi beaucoup de personnes qui se prétendent experts ou en tout cas qui veulent rentrer dans le sujet, qui ne connaissent pas et qui s'apparentent plus à du greenwashing qu'autre chose.
Donc d'après vous, le sujet, il est globalement bien traité, on va dire, à Nantes et ça devrait du coup ouvrir des perspectives assez intéressantes pour l'évolution de l'écosystème nantais.
Alors il est pas forcément bien traité. En tout cas, on est actif sur le sujet. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à voir, à évaluer, à créer. Beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans au niveau nantais.
Et quels seraient, d'après vous, donc, les principaux enjeux? Quels sont les grands sujets de travail de Nantes Numérique Responsable?
Alors, Nantes Numérique Responsable, notre grand sujet, c'est d'apporter une porte d'entrée à tous ceux qui veulent être sensibilisés ou qui veulent apprendre plus sur ce sujet-là. Donc que ce soit professionnel ou personnel, ça permet d'avoir une première appréciation et c'est pas que sur l'impact écologique, mais aussi sur l'impact social, etc., etc. C'est vraiment le numérique responsable. Le numérique n'est pas responsable, mais en tout cas, c'est en tant que personne qui utilise le numérique, on peut être un peu plus responsable. Et c'est dans ce cadre-là que notre numérique responsable porte ses valeurs.
Et maintenant, Thibaut Dugas, le métier de développeur, c'est vrai qu'on a souvent une image du développeur qui est très consumériste. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas difficile de refuser, quand on est développeur, de refuser tous ces objets numériques, toutes ces tentations liées au numérique?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit plus difficile que quelqu'un d'autre, qu'on soit développeur ou qu'on soit chef de projet ou autre, ou ouvrier. On a toujours une tentation, le numérique est très accessible et nous permet de faire les choses facilement. Peut-être l'avantage qu'ont les développeurs, c'est qu'ils ont peut-être une meilleure compétence, une meilleure vision de comment le numérique fonctionne et donc être un peu plus avertis sur quelles sont les dérives qui sont possibles.
Il y a cette culture du développeur ou pas, du développeur qui va beaucoup consommer? Vous n'en avez pas spécialement autour de vous, ça reste un cliché?
Non, c'est... Alors, il y a différents types de développeurs, effectivement. Il y a les développeurs qui sont notamment portés par beaucoup d'entreprises où il faut toujours être à la pointe de l'innovation, créer des nouveaux... Donc, c'est des nouveaux langages, des nouveaux types de choses pour créer le numérique. Toujours en avoir un nouveau tous les ans et utiliser le plus en vogue. Après, il n'y a pas que des développeurs comme ça. Il y a aussi, dans TransUCI notamment, on utilise des langages qu'on connaît depuis plusieurs années pour qu'on sait qu'ils vont rester encore plusieurs années, qu'ils sont à la base du web et qui permet aussi à nos sites web de rester encore 20 ans, 30 ans, 50 ans sans problème, contrairement aux nouvelles technologies, puisque c'est comme les innovations, ils arrivent et puis ils ont 2-3 ans et ensuite ils disparaissent et on ne sait pas quoi en faire. Hein. C'est comme les langages, c'est tout à fait possible. Après, c'est un travail et il faut avoir ça en tête. Et c'est un peu comme l'économie d'aujourd'hui. Hein. On va toujours de plus en plus vite et il faut aller de plus en plus vite. C'est qu'une image qu'on a et que l'économie nous renvoie, mais on peut aller pas forcément aussi vite, on peut même ralentir et on peut avoir quelque chose effectivement qui dure des années et des années. Il suffit juste d'y penser dès le début et ne pas faire forcément quelque chose qui soit hyper tendance à fond, mais qui soit raisonnable dans la façon dont on voit les choses, dans la façon dont on fait les choses, et qui correspond à ce que l'on a envie, et pas à ce que l'on voudrait être dans 50 ans, alors qu'on ne sait pas comment ce sera dans 50 ans.
On parle souvent du numérique qui parfois sépare les gens, puisqu'il y a beaucoup les visios, on a des rapports irréels, et finalement, est-ce que selon vous, le numérique il permet aussi de développer une économie de partage? Une économie plus basée sur l'humain? Est-ce que vous êtes positif là-dessus?
Le numérique pourrait effectivement favoriser les échanges et favoriser la relation entre les êtres humains. Aujourd'hui, le numérique porte plus à la distance, j'ai l'impression en tout cas. Dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas de tous les usages, mais la plupart nous séparent et nous enferment dans une bulle, puisque toutes les recommandations qu'on a, que ce soit sur Google, Amazon ou autre, ils nous enferment dans une bulle qui sont nos biais cognitifs, qui sont selon ce qu'on aime, en fait, ils nous recommandent ce qu'on aime, et du coup, on reste toujours dans ce que l'on aime, et donc on se radicalise dans ce que l'on aime, et on ne va jamais voir autre chose. Donc on reste dans une bulle. Internet a le défaut de vraiment être assez performant pour nous donner notre zone de confort et ne jamais nous en extraire.
Internet nuit à notre ouverture.
Internet peut nuire à notre ouverture et aujourd'hui, on va de plus en plus là-dedans, effectivement.
Justement, quand on est développeur, Thibaut Dugas, est-ce qu'on est plus conscient des effets néfastes du numérique, notamment dans l'éducation de ses enfants, par exemple?
peut-être qu'on est un peu plus conscient de justement comment le numérique et quel impact il a, et donc on fait un peu plus attention à ça. Effectivement, par exemple, il y a un reportage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Écran de fumée » en français, et qui parle justement de l'addiction, ou en tout cas de comment les grosses entreprises, notamment qui viennent de la Silicon Valley, font pour qu'on soit toujours accro à leur service. Et dans ce reportage, toutes les personnes qui ont créé ces algorithmes qui permettent de nous retenir font justement très attention à ce que leurs enfants ne prennent pas la tablette ou pas trop souvent, etc., etc. On peut voir aussi que c'est ces mêmes personnes qui ont créé des entreprises pour justement contrer ce qu'ils ont créé juste avant. C'est un reportage à double tranchant. Il sensibilise sur le fait qu'on devient de plus en plus addict et que les entreprises font en sorte qu'on soit de plus en plus addict. Après, c'est eux qui les ont créés et c'est eux qui créent des solutions pour qu'on ne soit plus addict. Donc c'est un peu facile.
L'épisode 10 des Écolonautes est à retrouver en intégralité sur le www.prune.net.